Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Sciences Po Paris a été évacué ce vendredi. Plus de 90 étudiants ont occupé les locaux de l'école pour la cause palestinienne. Les forces de l'ordre sont intervenues et les évacuations ont eu lieu dans le calme. D'autres écoles ont été touchées par ces mouvements pour la Palestine. Nous ferons donc un point complet sur la situation dans un instant. Des milliers de personnes sont attendues ce samedi à Châteauroux pour rendre hommage à Matisse, cet adolescent de 15 ans, tué le 27 avril dernier par plusieurs coups de couteau. Et à l'occasion de cette marche blanche, un dispositif de sécurité sera mis en place pour que cet hommage puisse se dérouler dans le calme. Le gouvernement a présenté son projet de loi sur le logement. Dans le texte figure une série de mesures sur les HLM. L'une d'entre elles devrait permettre de déloger à terme les locataires les plus riches pour permettre aux foyers modestes d'accéder plus rapidement à ces logements sociaux. Tous les détails dans cette édition. Et enfin, le Kremlin juge très dangereux les propos d'Emmanuel Macron. Le président français a une nouvelle fois affirmé qu'il n'écartait pas la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Vous entendrez le porte-parole de la présidence russe à la fin de ce journal. La police est donc intervenue à Sciences Po Paris ce vendredi pour évacuer les militants pro-palestiniens. L'établissement a été fermé en raison donc de cette mobilisation. Plus de 90 étudiants étaient présents dans les locaux rue Saint-Guillaume au moment où les forces de l'ordre ont pénétré dans Sciences Po Paris. Et les mouvements de soutien au peuple palestinien s'étendent à d'autres grandes écoles comme à la Sorbonne ou encore à l'ESJ Lille. On fait le point donc avec Dounia Tangour et Marie-Lise Chevalier.
Plus de 90 étudiants ont été délogés des locaux de Sciences Po ce vendredi par les forces de l'ordre. Étudiants et policiers sont désormais face à face devant le bâtiment et la colère des étudiants est toujours présente. Pour accentuer la mobilisation, certains ont pris des mesures radicales.
Il y a des gens qui vont commencer des grèves de la faim également et on n'arrêtera pas tant que des comités d'investigation ne soient pas faits pour que les partenariats universitaires avec l'État d'Israël, les universités israéliennes, ne soient pas coupés puisqu'ils participent activement à un risque de génocide et à des violations de droits humains. Et encore une fois, ce n'est pas couper des partenariats avec un passeport ou avec un pays, c'est avec des institutions qui sont complices et on refuse.
Face à ces manifestations, Laurent Nouniez, préfet de police de Paris, reste ferme.
La liberté d'expression, c'est une chose. Le blocage des établissements scolaires en est une autre. J'ai fait intervenir les forces de l'ordre ce matin. C'est la troisième fois d'ailleurs à Sciences Po. C'est la troisième fois en huit jours. Dans les trois cas, ces évacuations se sont bien passées. Et chaque fois que je serai requis, j'interviendrai.
Le mouvement s'est déjà étendu au campus de Reims, de Lyon et a également gagné la Sorbonne et l'ESJ de Lille.
Et justement, à quelques centaines de mètres de Sciences Po Paris, place de la Sorbonne, l'Union des étudiants juifs de France a organisé une table ronde pendant une bonne partie de la journée. L'objectif est bien renouer le dialogue avec les éléments les plus radicaux. Alors concrètement, comment s'est déroulée cette journée place de la Sorbonne? Maxime Leguet avec Charles Pousseau sur place.
Après les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants pro-palestiniens ainsi que les vives tensions qui ont eu lieu sur cette place de la Sorbonne toute la semaine, serait-ce le retour à un dialogue et un débat civilisé? C'est en tout cas le pari et le souhait qu'a fait l'Union des étudiants juifs de France en organisant cette table ronde rebaptisée la table du dialogue pour l'occasion. Des étudiants qui ont échangé avec les Parisiens, les curieux, des membres du corps professoral de la Sorbonne. Objectif, sortir des outrances, des caricatures et des invectives qui accompagnent trop souvent le débat sur le conflit israélo-palestinien. Alors des échanges, il y en a eu ici, ils étaient nombreux, vifs, tendus, parfois houleux, mais ils sont toujours restés courtois. Seul regret pour l'Union des étudiants juifs de France, le fait que les étudiants pro-palestiniens n'aient pas joué le jeu et ne soient pas venus débattre avec eux ici à la place de la Sorbonne.
Autre grand titre de ce journal, des milliers de personnes sont attendues ce samedi à Châteauroux pour rendre hommage à Matisse, cet adolescent de 15 ans, tué le 27 avril dernier par plusieurs coups de couteau. Et à l'occasion de cette marche blanche, le père de Matisse ne souhaite aucune récupération politique ni aucune violence. Sachez qu'un dispositif de sécurité sera mis en place pour que cet hommage puisse se dérouler dans le calme. On va écouter les quelques précisions du préfet de l'Indre, Thibault Langsat, qui s'est exprimé.
Il y a une déambulation qui est prévue dans la ville de Châteauroux, un parcours d'un peu moins de 2 km. Nous attendons entre 3000 et 10000 personnes, mais je pense que la jauge sera peut-être sur une jauge haute. Et nous avons un dispositif qui, on va dire, sera couvert par la vidéoprotection de la ville de Châteauroux. Donc toute cette déambulation, cette marche blanche sera couverte en vidéoprotection. Nous avons des renforts qui viendront s'assurer que tout puisse se passer de façon sereine.
Un jeune homme de 18 ans a été tué à l'arme blanche ce vendredi dans un quartier populaire de Bordeaux. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet. Les circonstances de ce drame restent à déterminer, mais il pourrait s'agir d'une rixe, selon une source proche de cette enquête. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade de cette enquête. À Paris, dans le 15e arrondissement, un homme de 62 ans a été passé à tabac. Le sexagénaire a été lynché pour avoir tenté d'empêcher quatre mineurs de s'introduire dans son immeuble. Victime de plusieurs fractures, il s'est vu prescrire 30 jours d'ITT. Et les agresseurs ont tous été interpellés par les forces de l'ordre. Laurent Sélary, Augustin Donadieu.
C'est un sexagénaire courageux qui nous reçoit dans son appartement avec les stigmates bien visibles de son agression.
J'ai deux fractures sur le cheville et j'ai deux fractures dans le visage.
Mercredi matin, cet homme de 62 ans aperçoit par sa fenêtre quatre individus qui forcent la porte de son immeuble. Il les fait fuir, mais ces derniers reviennent quelques minutes plus tard pour le rouer de coups.
Je lui dis comme ça, partez avant que j'appelle la police. Dès que j'ai parlé comme ça, il m'a foncé et m'a pris une claque sur le visage. Le troisième, il est venu par derrière, il m'a claqué par là avec une claque sur les pieds.
Les policiers interviennent très rapidement et parviennent à interpeller les agresseurs, visiblement très jeunes.
Je suis allée le voir et là, il y a un policier qui m'a dit, vous savez, ce ne sont que des mineurs, ils ont entre tous 15 et 16 ans.
Les habitants de cette résidence ont déjà subi des cambriolages, alors l'acte de défense de leur voisin a ému tout le quartier.
C'est un monsieur que nous aimons tous beaucoup, et il ne mérite pas ça. Maintenant, on le considère comme un héros, parce qu'il a voulu nous sauver.
L'un des quatre individus était toujours en garde à vue ce jeudi, selon le parquet. La victime, qui a porté plainte, s'est vue prescrire 30 jours d'ITT.
Et puis toujours dans la capitale, un homme muni d'un hachoir a été blessé par balle par des agents de la sûreté ferroviaire. Trois agents ont tiré avec leur arme sur cet homme qui s'approchait de dangereusement. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Les faits se sont produits la nuit dernière dans le 13e arrondissement de la capitale. On voit tout ça avec Célia Barotte du service police-justice.
Les faits se sont déroulés peu après minuit. Selon les premiers témoins, un homme porteur d'un hachoir courait près du cinéma, des témoins qui ont pu s'enfuir. Puis l'homme s'est rapproché des agents de la sûreté ferroviaire. Quatre agents qui étaient en uniforme dans un véhicule banalisé ont été pris à partie par cet homme. Trois d'entre eux ont réussi à s'extraire du véhicule par l'autre côté. L'homme s'est approché d'eux en dépit de leur sommation et ils ont utilisé leur arme. Huit coups de feu ont été tirés. Quatre ont blessé l'homme qui a été hospitalisé. Nous n'avons pas d'informations pour le moment sur son profil. Un des policiers a été blessé à la cheville. Il a un hématome. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne chargée de mission de service public a été ouverte. Le service de renseignement territorial est en charge de la vérification du cadre de l'usage de leur arme par les agents.
Et puis un autre drame dans ce journal, cette fois-ci à Toulouse. Une jeune lycéenne de 16 ans a été poignardée dans le gymnase de son lycée par un autre élève. L'agresseur lui aurait infligé plusieurs coups de couteau au niveau du bras avant d'être maîtrisé par d'autres élèves de l'établissement. Heureusement, ses blessures sont superficielles et son pronostic vital n'est pas engagé. Dounia Tangour avec Nathan Témine.
Il n'est pas loin de 17h ce jeudi au lycée Urbain Vitry de Toulouse lorsqu'un élève de 18 ans fait irruption dans le gymnase et attaque au couteau une autre lycéenne âgée de 16 ans.
L'élève a été, comme je disais, arrêté par un autre de ses camarades. Il a attendu la police qui vient le chercher. Il a même dit à la CPE il faut appeler la police. Donc c'est-à-dire que manifestement, il était conscient de ce qu'il a fait et de la gravité de la situation.
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur connaissait sa victime et était scolarisé dans le même établissement.
Très rapidement, on comprend qu'il s'agit d'une histoire de cœur. Cette jeune fille ne, ne répondant pas à ses avances, eh bien, il aurait été pris de colère et l'a agressé dans ce lycée.
Atteinte de blessures superficielles, l'adolescente, encore sous le choc, a été prise en charge par le personnel soignant de son lycée. Son agresseur a, quant à lui, été placé en garde à vue.
Dans le reste de l'actualité cette nuit, le gouvernement a présenté son projet de loi sur le logement. Dans le texte figure une série de mesures sur les HLM. L'une d'entre elles devrait permettre de déloger à terme les locataires les plus riches pour permettre aux foyers les plus modestes d'accéder rapidement à ces logements sociaux. Toutes les explications, c'est avec Solène Boulan. Regardez.
Faire la chasse aux locataires trop riches, c'est l'un des objectifs de Guillaume Kasbarian. Le ministre délégué au logement a dévoilé son plan de réforme des habitations à loyer modéré. Et les conditions seront plus strictes. Le texte prévoit notamment de pénaliser les ménages dont les revenus ont augmenté depuis l'attribution d'un logement social, car des plafonds de ressources existent pour obtenir et rester dans un HLM. Par exemple, une personne seule vivant à Paris ou en Île-de-France ne doit pas dépasser 26 044 euros de revenus fiscaux annuels. Cela descend à 22 642 euros dans les autres régions françaises. Mais selon le ministre, environ 8% des locataires seraient au-dessus de ce plafond. Si un dépassement de 20% du plafond des ressources est aujourd'hui autorisé, cette marge pourrait bientôt disparaître. Un surloyer s'appliquerait dès le premier euro de dépassement des ressources. Et si le plafond est dépassé de 20% pendant 2 années de suite, le bail sera alors résilié, à l'exception des plus de 65 ans et des personnes en situation de handicap. Autre mesure, la prise en compte du patrimoine des ménages vivant en logement social dans l'évaluation des ressources. Par exemple, un propriétaire d'un bien équivalent à un logement social n'aurait alors plus le droit de rester dans son HLM. Le texte entend également donner un pouvoir supplémentaire aux maires en termes d'attribution des logements sociaux, car en 2023, 2,6 millions de ménages étaient en attente. Le texte doit être examiné au Sénat vers la mi-juin.
Allez, on poursuit ce journal avec cette information. Le PDG de la SNCF, convoqué par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie souhaite que Jean-Pierre Farandou rende des comptes concernant l'accord trouvé avec les syndicats sur les fins de carrière. Cet accord doit tout simplement permettre aux cheminots de cesser leur activité avant la retraite. Mathilde Couvillère-Flandre a les explications.
C'est un accord qui fait grimacer le gouvernement. Le 22 avril dernier, les 4 principaux syndicats de la SNCF ont approuvé un nouvel accord de la direction sur les fins de carrière. Grâce à celui-ci, les cheminots pourront entamer une cessation anticipée d'activité 18 mois avant leur retraite, avec 9 mois travaillés rémunérés à 100% et 9 mois non travaillés rémunérés à 75%. Un accord que dénonce Bruno Le Maire.
Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Un accord est signé qui engage les équilibres de la réforme des retraites, les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Donc j'ai convoqué M. Farandou et je tiens à ce qu'il m'explique comment il finance cet accord qu'il a conclu avec les syndicats sans que nous soyons avertis.
Cet accord inquiète le gouvernement qui craint une augmentation des tarifs pour les usagers, qui financerait ainsi ce nouveau système. Une crainte inexistante pour Fabien Villedieu, délégué syndical de Sudrail.
La SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe, donc elle a les moyens financiers d'absorber ces mesures.
Convoqué par Bruno Le Maire dans les prochains jours, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, devra également s'expliquer mardi devant une commission sénatoriale pour évoquer les conséquences préoccupantes de l'accord.
Actualité à l'étranger à présent, le Hamas est attendu au Caire ce samedi pour continuer à discuter d'une trêve dans la bande de Gaza. Le groupe terroriste palestinien dit étudier avec un esprit positif la proposition d'Israël. L'État hébreu a proposé une trêve de 40 jours dans les combats associés à une libération des otages toujours détenus dans l'enclave palestinienne. Le mouvement terroriste maintient toutefois ses exigences et réclame un cessez-le-feu permanent. Berlin et Prague accusent Moscou d'une récente campagne de cyberattaque dans leur pays, un comportement malveillant auquel l'Union européenne a promis une réponse très ferme. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les pays occidentaux sont en alerte maximale contre le risque d'attaque informatique. Et de son côté, la Russie juge ces accusations infondées. On en vient à cette réaction du Kremlin au propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Moscou juge les propos du président français extrêmement dangereux. Le porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, a ajouté que la Russie allait poursuivre ses opérations militaires jusqu'à l'accomplissement de tous les objectifs fixés. Je vous propose donc de l'écouter.
La France, représentée par le chef de l'État français, continue de parler constamment de la possibilité de s'impliquer directement sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. Il s'agit d'une tendance très dangereuse. Nous suivons cela de très près et nous continuons et continuerons notre opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous ces objectifs soient atteints.
Alors concrètement, l'envoi de troupes françaises en Ukraine est-elle possible et si elle devait avoir lieu, eh bien sous quelle forme l'armée française interviendrait-elle sur place? Les éléments de réponse avec Dunia Tangour.
Emmanuel Macron réitère ses propos. Il y a deux mois, le chef de l'État évoquait déjà la possibilité d'un envoi de troupes occidentales au sol sur le front ukrainien. Un nouvel avertissement en direction de Moscou, non pas sans conséquences au cas où l'armée russe percerait les lignes de front.
Il s'agirait de troupes. Alors on entend des bruits, on entend que ça pourrait être la Légion qui défendrait la ville d'Odessa s'il y avait une offensive russe sur Odessa. Et rentrer en guerre contre la Russie, eh bien la France faisant partie de l'OTAN, de facto, l'OTAN rentrerait au nom de l'article 5 en guerre contre la Russie.
Pour le grand reporter Régis Le Sommier, l'armée française, habituée aux opérations spéciales, serait confrontée à une guerre nouvelle.
Le problème aujourd'hui, c'est que si l'Ukraine fait la demande à la France d'intervenir et d'envoyer des troupes, ça c'est une des conditions, eh bien en face, on n'a pas des groupes armés terroristes. Ils ont besoin de troupes, mais pas des forces spéciales. Ils ont besoin de troupes pour tenir des tranchées, pour tenir des positions défensives. Ils sont dans une situation où la Russie progresse. Et là, nos troupes ne me paraissent pas aujourd'hui adaptées pour ce type de combat.
Dans son interview, le président français a tenu à rappeler sa position, affirmant que la Russie ne pouvait pas gagner en Ukraine, et ce, pour la sécurité de l'Europe.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. Et la 32e journée de Ligue 1, ce vendredi, Lens a dominé Lorient, 2-0. Eli Way inscrit son 8e but de la saison pour les 100 et or à l'heure de jeu. En fin de rencontre, Pereira da Costa fait définitivement le break pour les Lensois. Les hommes de Franck Aïs restent solidement accrochés à la 6e place qualificative donc pour une Coupe d'Europe. Lorient 17e se rapproche un peu plus de la Ligue 2 pour la saison prochaine. Allez, on parle de Formule 1 dans le journal des sports avec les qualifications du Grand Prix de Miami. Ce vendredi soir, Max Verstappen a décroché la pole position en qualification sprint. C'est un 6-6 depuis le début de la saison pour le triple champion du monde. Il devance Charles Leclerc et Sergio Pérez. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon se placent respectivement 16e et 13e de ce classement. Pourtant, tout n'est pas rose chez Red Bull qui va perdre son meilleur ingénieur, Adrian Newey. Les explications de Clara Mariani, cette nuit, regardez.
Un calepin sous le bras toujours et un stylo pour griffonner notes et croquis. Si Adrian Newey suscite tant de convoitises, ce n'est pas pour son côté old school dans un monde de data, mais bien pour son génie. 13 titres pilote, 12 constructeurs en plus de 3 décennies. Cela vous plante à un ingénieur.
You think in a different way, you are always smarter and clever than anyone else and he's a legend of the sport.
Une légende. Libéré du taureau Red Bull au premier trimestre 2025 après 19 ans de collaboration et dont la Scuderia Ferrari de Frédéric Vasseur rêve clairement. Les deux hommes se seraient vus cette semaine à Londres. Le génial ingénieur qu'espère aussi Charles Leclerc.
Quand il y a une personne comme Adrian Newey sur le marché des transferts, on ne peut pas l'ignorer. C'est clair que c'est une énorme opportunité. Et s'il y a bien une personne avec qui, une des personnes avec qui j'ai envie de travailler dans ce paddock, c'est bien Adrian. Donc ce serait super de l'avoir dans le team.
Cet avis, Lewis Hamilton, 7 titres pilote, qui troquera la saison prochaine son étiquette Mercedes pour le blason frappé du Cavallino, ne saurait le démentir.
How much would you like to see him join you at Ferrari in 2025? Very much.
Mais le maître intéresse aussi d'autres écuries, évidemment, ainsi McLaren ou encore Aston Martin.
Yeah, I always dreamt to work with him one day. It was close a few times.
Un pont d'or attend peut-être le designer et aérodynamicien, le visionnaire et le cerveau quelque part. Car chacun le sait, Adrian Newey, 65 ans, est le seul à concevoir des monoplaces qui gagnent partout où il passe. D'ici là, le jeu de piste continue.
On termine avec du cyclisme et le premier grand tour de la saison. Il s'agit bien sûr du Giro. Ce samedi, le Tour d'Italie s'élancera du Palais Royal de Venaria. Romain Bardet va participer pour la troisième fois de sa carrière à la poursuite du maillot rose. Âgé 33 ans, il sera un outsider sérieux face au grand favori, bien sûr, Tadej Pogacar. Victoire d'étape, rêve de podium à Rome. On va écouter Romain Bardet.
La vraie motivation pour moi, ça reste d'essayer de gagner sur la course, de vivre ces émotions-là. C'est un beau challenge qui m'attend parce que je suis passé plusieurs fois pas loin sur le Giro, mais pour l'instant, ça se refuse un petit peu à sourire. Il faut être réaliste, j'ai jamais su concurrencer Pogacar sur une course par étape et vu ce qu'il a dans ses dernières apparitions, il n'est pas à un niveau où je peux vraiment concurrencer.
Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Sciences Po Paris a donc été évacué ce vendredi. Plus de 90 étudiants ont occupé les locaux de l'école pour la cause palestinienne. Les forces de l'ordre sont intervenues et les évacuations ont eu lieu dans le calme. D'autres écoles ont été touchées par ces mouvements pour la Palestine. Nous ferons donc un point complet sur la situation dans notre prochain journal. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle nuit et je vous retrouve donc dans un instant sur CNews.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.